un grand homme de la vie politique du Burundi du XXe siècle. Quand on sait ce qu'il a laissé dans son pays, notamment en ce qui concerne sa vision et sa politique en matière de développement économique, je pense que la très large majorité des infrastructures sur lesquelles fonctionne aujourd'hui l'économie burundaise, nous le devons au président Jean-Baptiste Bagaza. Je vois ici la construction des routes, notamment des routes macadamisées, la dotation du pays un peu d'énergie hydroélectrique que nous avons, et beaucoup d'entreprises d'État dans beaucoup de secteurs, la mise en place d'un système d'assurance, notamment avec la mise en place de la société Sokabu. Tout cela constitue le grand apport que Jean-Baptiste Bagaza a fait pour le Burundi. Évidemment, il y a beaucoup d'autres aspects sur lesquels je pourrais faire des commentaires. Et quand je sais que c'est en 1976, à la fin de cette année 76, au moment où moi je commençais mes études à l'université, que lui accédait à la magistrature suprême du pays par son coup d'État, c'est également lui que nous avions combattu, il faut le dire, et quand nous étions en train de monter le parti Sahwanya Frodebo, la clandestinité. C'est également lui à qui nous avions permis de retrouver son pays après ces temps d'exil qui lui avaient été imposés suite au coup d'État qu'il avait renversé. C'est également lui, Jean-Baptiste Bagaza, et avec lequel nous étions en opposition, et notamment entre 1994 et 1996, quand il dirigeait le parti Parena, alors que moi, j'étais président de la République. Mais c'est également et surtout, et c'est ça, cette autre image que je voudrais donner de Jean-Baptiste Bagaza, le même Jean-Baptiste Bagaza avec lequel nous avions été aux négociations d'Arusha, qui avait fini par accoucher l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi. Je vois le rôle qu'il a joué. Et les Burundais se souviennent certainement des images qui ont été diffusées et me montrant à côté du président Bagaza, Soulia, et discutant ensemble. Et, mais également, ils se souviennent de ce qui avait été monté à Bujumbura, l'occurrence c'est la NAC, et qui avait détendu l'atmosphère dans les relations entre le Parena et le Frodebo. Et allant jusqu'à ce que des membres du Parena venaient à la permanence du Frodebo, et c'est du Frodebo à la permanence du Parena. Tout cela pour favoriser justement cette nécessité à l'époque de trouver un terrain d'entente qui aiderait à mettre en place cet accord d'Arusha. Évidemment, il y a d'autres aspects beaucoup plus sur lesquels les gens s'interrogent dans ses relations avec l'Église catholique. Mais en ce moment, il est de notre devoir de lui rendre hommage. Il est de notre devoir également de nous associer à sa famille, de nous associer à son parti, au Parena, et de nous associer bien sûr à tout le peuple burundais en général pour cette perte énorme que le pays vient de subir.
Vous l'avez combattu quand vous étiez en train de monter le Frodebo. C'était pour quelle raison exactement?
Bon, nous étions une jeune génération, et c'est peut-être ici aussi que les jeunes d'aujourd'hui devaient également tirer des leçons, et qui militaient pour plus de démocratie dans nos pays. Et à l'époque, le Burundi se trouvait sous le pouvoir d'un parti unique, et nous voudrions l'instauration du multipartisme, et en voie de conséquence, recours à des élections multipartites, libres, transparentes, en vue de doter le pays de ses organes dirigeants.
Au niveau de sa politique, c'était seulement ça comme lacune qu'il fallait combler?
Bon, nous pensions que justement un système démocratique pouvait répondre aux autres aspects sur lesquels peut-être le résultat du président Bagaza est controversé. Je veux parler ici, par exemple, de la question de l'unité nationale. Et parce que d'aucuns le savent, et le président Bagaza a accédé au pouvoir 4 ans après les graves événements de 1972 sur lesquels il y avait tant de souffrances qu'ils avaient laissées dans le cœur des Burundais. Et d'aucuns considéraient que la réponse qu'il donnait à cette question au niveau de son analyse et au niveau de son traitement n'était pas suffisamment réconfortante, notamment du côté de ceux qui avaient été victimes de ces événements.
Comme vous le dites, c'est un homme qui s'est attelé au développement du pays, même à la construction de l'armée. Effectivement, il y a des gens qui disent qu'il a oublié le côté réconciliation suite aux événements de 72. Est-ce qu'on peut dire que ça a été le côté négatif de son règne?
Bon, je crois qu'il avait peut-être une philosophie à lui pour répondre à cette question, en pensant par exemple que une démarche développementaliste pouvait aider à résoudre les contradictions d'ordre ethnique qui étaient apparues dans la vie de la société et de l'État burundais. Mais sur ce point, je pense qu'il y a une erreur. D'autant plus que même sous son pouvoir, nous avons observé également des travers qui minaient la question, qui minaient l'unité nationale. Je pense par exemple à ces filtrages des écoliers de l'école secondaire, des élèves aussi pour accéder à l'université, où visiblement ce filtrage visait une composante ethnique, en l'occurrence les Hutus.
Le président Bagaza, c'est quelqu'un qui a joué un rôle important au niveau de la sous-région et même de la région. On peut parler dans l'accession du pouvoir du président Museveni, dans la participation d'autres mouvements de libération.
Oui, je me rappelle de cela, d'autant plus que en 1988 ou 9, je pense, moi j'étais un cadre au secrétariat exécutif du parti Iprona. Je me souviens qu'on avait effectué une visite en Ouganda avec le coordonnateur à l'époque, en l'occurrence Monsieur Libé Rwanyeretse. Et une des questions que nous avions à traiter était justement une sorte de dette que devait l'Ouganda au Burundi en rapport avec justement l'assistance que le président Bagaza avait donnée au président Museveni alors qu'il était au maquis en train de combattre le régime Dobote d'Idi Amin. Je sais effectivement qu'à l'époque, Bagaza était très actif vis-à-vis de ce monde progressiste. Et que cela avait également marqué ses relations avec des pays et qui étaient dans cette voie. Je vois par exemple la visite que Kadhafi, qui était défini comme progressiste, avait effectuée à Bujumbura, je pense, dans les années 1984, si j'ai bonne mémoire, je peux me tromper au niveau des dates.
Oui, vous l'avez connu comme sénateur. Quel a été son rôle au Sénat?
Bon, il faut dire que j'aurais beaucoup plus vu pendant la période de transition. Sinon, pendant les autres législatures 2005 et 2010, il n'a pas beaucoup participé. Tout de même, je dois souligner que je l'ai vu en 2010. Et après les élections qui venaient de se dérouler, c'est lui d'ailleurs qui dirigeait la séance inaugurale comme le plus âgé de nous tous. Et qui a aidé à la mise en place, à l'adoption du règlement d'ordre intérieur et à la mise en place du nouveau bureau du Sénat. C'est un homme très aimable, très pragmatique, voire qui créait une ambiance assez détendue quand il s'agissait de présider des travaux de ce genre.
Si vous essayez d'analyser son règne, quels seraient les problèmes majeurs que le président Bagaza aurait connus?
Personnellement, je peux en relever trois ou quatre. Premièrement, c'est le problème qu'il avait eu avec les sous-officiers et les hommes de troupes au lendemain de son coup d'État. Ce qu'on a appelé d'ailleurs à l'époque le mouvement des caporaux. Je pense que là, on a flairé même un grave incident qui aurait pu produire des effets très négatifs, mais qu'il a su gérer. Et en deuxième lieu, c'est comment, avant, il a essayé de traiter le héros national de l'indépendance, le prince du Rwagasore, notamment en renonçant à la commémoration officielle de la date de son assassinat le 13 octobre. et en changeant en conséquence également l'appellation du mouvement de jeunesse et affilié alors au parti Prona. Je pense ici à la jeunesse révolutionnaire Rwagasore, qu'il avait rebaptisé Union de la jeunesse révolutionnaire du Burundi, se mettant d'ailleurs en difficulté, notamment avec la commission estudiantine de la JRR. Je pense que ce n'est pas Eugène Ndolera ou Raphaël Vitariho qui me contredirait et qui dirigeait cette commission à l'époque. Il y a ensuite ce conflit et qui a été vécu entre son pouvoir et l'Église catholique, et qui avait pris des dimensions extrêmement graves quand on voit les églises qui étaient fermées ici et là. Et je garde ici, dans ma vie, une image de ma mère, qui considérait que l'église à notre paroisse de Nyabiraba était fermée, allait prier à une vingtaine de kilomètres de chez nous. Et enfin, je dois souligner ici les relations tendues, j'allais dire conflictuelles, qui avaient longuement persisté entre lui et son tombeur, le major Pierre Buyoya. Je pense que là, il s'agit des aspects quand même qui ont fortement marqué négativement la vie politique du président Jean-Baptiste Bagaza.
Vous avez eu à discuter à plusieurs reprises. Est-ce que c'est quelqu'un, par exemple, qui aurait reconnu certaines erreurs, lesquelles?
Bon, d'abord, je vous dirais que le président Bagaza était une personnalité très instruite au niveau intellectuel. J'ai parlé beaucoup avec lui, beaucoup, et notamment quand nous étions en négociation d'Arusha. Il avait une façon à lui d'expliquer, effectivement, notamment ce qui concerne le conflit qu'il y avait eu entre lui et l'Église catholique, et en disant que des fois il y en avait qui avaient tendance à se mettre au-dessus de l'État, mais que jamais il ne voulait remettre en cause la laïcité de l'État d'un côté, mais également le droit des Burundais d'être libres dans leurs choix confessionnels. Et il essayait de l'expliquer dans ce sens-là. Sinon, pour le reste, il n'y a pas eu beaucoup de discussions. Je pense également que j'avais l'impression qu'il avait une sorte de regret qu'il avait d'avoir été mal compris en ce qui concerne comment il avait traité le nom du prince Rwagasore.
Et quel a été particulièrement son apport pendant les accords d'Arusha?
Là, je soulignerai un apport important. D'abord, en 1996, il avait été très actif, lui et son parti Iprona, et dans l'opposition qui était organisée contre moi, notamment à travers les mouvements de jeunes qui se déroulaient à Bujumbura. Mais quand nous sommes allés aux négociations d'Arusha, nous nous sommes appréciés, nous nous sommes tolérés, nous avons même travaillé ensemble, tout le monde est là, je l'ai souligné tout à l'heure, à travers les images qui ont été diffusées à la télévision nationale du Burundi. Je me souviens de beaucoup de séances que nous avons passées ensemble, une délégation du parti Sahwanya-Frodebo, une délégation du Parrainat, essayant d'arrondir les angles autour des questions fondamentales, ce qui a favorisé d'ailleurs l'obtention plus tard et de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi. Je me souviens également de la mise sur pied de cette organisation ANAC, Alliance nationale pour le changement, et qui avait été pensée et mise en place à Bujumbura, et permettant la détente des relations entre les deux partis, le Parrainat et le parti Sahwanya-Frodebo. J'ai vécu à l'époque des séances, des scénarios très positifs, très encourageants, quand je voyais des gens du Parrainat venir à la permanence nationale du Frodebo, et également des gens du Frodebo aller à la permanence du parti Parrainat. Cela devrait constituer d'ailleurs aujourd'hui un exemple pour le leadership burundais confronté à ses responsabilités et face à la crise que ce pays, que notre pays traverse depuis le mois d'avril. Et apprendre à se tolérer même quand il y a de graves choses dont on s'accuse et savoir mettre toujours en avant l'intérêt supérieur du pays. Ce qui a été fait à cette époque-là sous le leadership du président Jean-Baptiste Bagaza.
Je l'ai interviewé quelques semaines avant les élections de 2010. Le président Bagaza disait toujours que le Burundi était à la croisée des chemins et c'est une position qu'il a toujours maintenue jusque-là.
Il avait raison, effectivement, le pays était à la croisée de chemin. Ça veut dire savoir conforter, savoir consolider des acquis. Vous voyez par exemple ces acquis qui étaient issus de l'accord d'Arusha, notamment en ce qui concerne la tolérance ethnique et même une extinction progressive de la référence ethnique dans la vie politique et sociale du pays, et qui malheureusement aujourd'hui peuvent être éveillés par la crise qui traverse le pays depuis une année. Et je pense qu'il avait effectivement raison de dire que c'est la croisée de chemin. Vous savez, les leaders, nous avons un devoir important. Les voix que nous prenons influent sur ceux qui se reconnaissent derrière nous ou sur ceux qui attendent de nous des réponses. C'est pourquoi un leader politique doit absolument soigner ses prestations, autant dans le langage que dans l'action. On a toujours dit que la parole peut tuer comme la parole peut délivrer. Et sans parler bien sûr ici des actions qui se mènent quotidiennement, nous en faisons l'expérience aujourd'hui. Alors, c'est pour répondre à votre question, je dirais effectivement que le président Bagaza avait raison de dire que le Burundi en 2010 se trouvait à la croisée des chemins et nous le vivons aujourd'hui.
Lors de sa dernière intervention médiatique sur la BBC, le président Bagaza avait déclaré que le régime actuel est fatigué et qu'il faut seulement négocier son départ. Votre commentaire?
Évidemment, vous ne trouverez jamais un régime qui négocie son départ. Mais un régime, effectivement, peut être confronté à des problèmes et se rendre compte, finalement, au bout du compte, qu'il a face à lui des réalités qu'il ne peut pas contourner. Et ce qu'il faut négocier aujourd'hui, c'est effectivement tout ce qui nous met en phase avec l'accord d'Arusha et les acquis auxquels il nous avait fait parvenir, notamment dans la conception et l'organisation et le fonctionnement d'un État qui, à travers cette composition, sa structure et son fonctionnement, et rassurer les uns et les autres, référence faite à ce que nous avions vécu au cours des décennies passées. Alors, si on ne réussit pas, dans ce sens, évidemment, il y a beaucoup d'interrogations quant à la pertinence de prétendre être. J'allais dire les dirigeants d'un pays. Ce que moi je souhaite évidemment, c'est qu'aujourd'hui tout le monde se convainque qu'il est temps qu'on aille aux négociations par rapport à la crise que nous vivons et en mettant toute notre conscience dans la médiation sous la supervision du président Yoweri Kaguta Museveni, mais également avec la facilitation de l'ancien président de la Tanzanie, Janine Mukapa, qui connaît très bien la situation au Burundi, et du fait qu'il l'a suivi pratiquement depuis l'année 1995, quand il a accédé au pouvoir, en faisant confiance également à la communauté internationale qui, par ses gestes, en parole comme en action, montre qu'elle peut être soucieuse de jouer un rôle positif au Burundi. Bien évidemment, nous, les Burundais, nous-mêmes, jouons correctement. Mais si on ne joue pas correctement, il y a beaucoup de risques que ce pays, malheureusement, sombre dans des situations difficiles à gérer demain.